Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Job. Nous allons... Allez, je sais que ce ne sera pas vraiment la fin, mais nous allons atterrir dans notre série sur le mystère des rêves aujourd'hui, parce que nous allons entrer dans une semaine où ça va être révélation sur révélation, mais nous en avons déjà depuis un moment. Livre de Job. Nous allons le prendre au chapitre 33 et nous sommes toujours dans notre série intitulée « Le combattre pour libérer notre potentiel » et on va continuer sur le mystère des rêves. Dites-moi le mystère des rêves. Verset 14, Job 33 au verset 14, il est écrit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. On va le relire dans la version français courant où il est décrit quand Dieu parle. Dites-moi quand Dieu parle. Il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit, il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements, il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu ailles dans le livre de Ésaïe au chapitre 60. J'avais pas prévu de le lire, mais je pense qu'on va le lire quand même là. On va revenir dessus après. Au verset 1 où il est écrit: lève-toi, dis avec moi, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Le mystère des rêves. Allez, ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Et c'est plutôt intéressant comme sujet, n'est-ce pas? Qui rêve beaucoup maintenant? Il n'y a pas beaucoup de rêveurs ici. Le rêve est très important dans notre relation avec Dieu. Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui suivent l'enseignement depuis 3 semaines. Si tu écoutes cet enseignement pour la première fois en venant ici parce que tu n'étais pas avec nous les 2 semaines précédentes, nous parlons du mystère des rêves. Pourquoi? Parce que le rêve est un mystère. Le rêve est une expérience que nous vivons tous les jours. Nous voyons des choses, nous expérimentons des choses, nous recevons des choses, mais l'on ne comprend pas cet aspect de notre vie le plus souvent. On ne maîtrise pas cet aspect. On connaît quelques éléments parce qu'on a entendu des choses, on essaie nous-mêmes d'interpréter certaines choses, etc. Mais on ne maîtrise pas vraiment le réel. Pendant 2 semaines, on a démontré que le diable utilise le rêve pour pouvoir oppresser les enfants de Dieu ou toute personne de manière générale. Le diable entre. Quand je dis le diable, je parle de tous les esprits impurs qui peuvent venir oppresser une personne quand elle est endormie la nuit. Alléluia. Dieu utilise le rêve. Le rêve est super important pour Dieu. Et le rêve occupe une place de premier plan dans la Bible et également dans notre vie. Pourquoi? Parce que le rêve, dans la relation que nous avons avec Dieu, est le principal canal de communication que Dieu utilise pour nous parler. Dis avec moi le rêve. La plupart du temps, Dieu te parlera au travers d'un rêve. Souvent, vous entendez souvent les chrétiens qui prient comme ça. Oh, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle beaucoup par les rêves. Tout ce que tu vois dans le rêve, tout ce que tu vois dans les rêves, soit c'est Dieu qui te le montre, soit c'est Dieu qui permet que tu le vois. Il n'y a rien qui est le fruit du hasard dans la vie. Rien n'est le fruit du hasard. L'esprit que nous sommes, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous opérons dans la réalité spirituelle. Et dans la réalité spirituelle, il se passe beaucoup de choses. Et ça, même les héros de la foi de la Bible l'avaient compris. Dieu parle par les rêves. Tu es là assis aujourd'hui et Dieu t'a souvent parlé dans les rêves. Souvent, très souvent, tu as vu des choses. Depuis ton plus jeune âge, tu as vu beaucoup de choses dans les rêves. Sauf que le plus souvent, tu ne sais pas trop comment l'interpréter ou tu n'as pas compris et puis tu as oublié. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dit, Dieu t'avait montré dans les rêves. Concernant ta destinée, concernant ton appel, concernant ta famille, concernant des personnes avec qui tu chemines, etc. Dieu souvent te parle par les rêves. Alléluia. Et les héros de la foi, ils avaient compris la puissance du rêve dans la Bible. Tous les grands dans la Bible, Dieu leur parlait souvent par les rêves. Joseph, Abraham, Jacob, Pierre, Paul, tous ces gens-là ont expérimenté le rêve avec Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le plus souvent, on ne capte pas, on n'est pas attentif, on ne saisit pas ce que Dieu nous révèle. Et je vais vous donner différentes raisons pour lesquelles on ne saisit pas. Que quelqu'un dise avec moi le rêve. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Job nous dit que quand Dieu nous parle par les rêves, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il utilise le rêve pour nous parler. Tu verras que tous les rêves que tu feras auront tous un but. 5 raisons, j'en ai énuméré 5 sur la base du texte que nous avons lu. Amen. 5 raisons pour lesquelles Dieu nous parle par les rêves. Parce qu'il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour, afin, de, etc. La première raison pour laquelle Dieu nous parle par les rêves, tu vois, ça c'est toi ici qui dors la nuit, avec ta Bible. Est-ce que tu dors avec ta Bible? Demande à quelqu'un près de toi, est-ce que tu dors avec ta Bible? Hein? Pour la petite anecdote, cette semaine, je suis parti rendre visite à un pasteur. Et puis, j'arrive dans son secrétariat. Et quand j'arrive dans son secrétariat, je demande à la personne qui est là, il est dans son bureau? Oui, il est dans son bureau. Vous pouvez rentrer, pasteur. Donc, je cogne. Une fois, j'entends rien. 2 fois, j'entends rien. 3 fois, j'entends rien. J'ai dit, bon, je vais quand même rentrer. Et quand je rentre, je trouve le pasteur sur son bureau, la Bible grande ouverte de la tête de tout le dormir. Et c'est moi qui le réveille. J'ai dit, pasteur, ça va? Il fait, ah, je lisais la parole et puis je me suis endormi sur la parole. J'ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle manger la parole au point de s'endormir dessus. Est-ce que ça t'arrive souvent, ça? Hein? La première raison pour laquelle Dieu nous parle par les rêves, c'est pour le Job nous dit que c'est pour nous donner des avertissements sur ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est ce qu'on appelle couramment les rêves prémonitoires. Souvent, on fait des rêves, Dieu nous montre des choses dans les rêves pour nous avertir de ce qui va arriver devant, pour qu'on se prépare. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous parle par les rêves, c'est, Job dit, c'est pour mettre le sceau à ses instructions ou encore apporter des confirmations d'événements, de choses que l'on vit, etc. Et puis tu te demandes, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord, etc.? Et Dieu te montre quelque chose et te confirme dans le rêve qu'il approuve ou qu'il confirme que ce que tu es en train de vivre ou ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est sa volonté ou ce n'est pas sa volonté. En tout cas, il te confirme ce que tu t'apprêtes à vivre ou ce que tu vis. Alléluia. La troisième raison que Job nous donne, c'est pour nous détourner du mal et des mauvais agissements. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire par là que dans la vie, on peut se mettre à faire des choses sans même se rendre compte que l'on agit mal. Et Dieu va utiliser le rêve pour nous reprendre. Ou tout simplement, on s'apprête à faire quelque chose et Dieu vient dans notre rêve et nous dit, surtout ne fais pas ça. C'est ce par exemple qui est arrivé à Abraham quand il est parti en Égypte et il a vendu sa femme. Et quand il a vendu sa femme, Abimélec s'apprêtait à coucher avec elle, puisqu'il l'avait prise pour femme. Pharaon plutôt. Et Dieu vient dans le rêve de Pharaon. Et il dit, si tu touches à la femme, là, je te tue. Et là, il sort de son rêve et il est effrayé et il retourne voir Abraham. Dieu lui avait parlé en rêve. Est-ce que tu sais que Dieu veut parler en rêve, même un païen? Dis avec moi le païen. Les chrétiens dans les églises, on aime critiquer les non-chrétiens. On aime critiquer les païens. On aime les pointer du doigt. Genre, nous, on est meilleurs. Mais tu vas te rendre compte que dans la Bible, Dieu parlait plus souvent à des païens. Dis avec moi le païen. Est-ce que tu sais que même pour sauver le monde, Dieu a parlé à des païens? Pour sauver le peuple d'Israël, Dieu s'est révélé en rêve à un païen. Nabucodonosor était païen. Un vrai païen de chez païen. Paul, Dieu se révèle à lui. Il est païen. Donc Dieu parle, Dieu n'a pas de problème à parler à quelqu'un qui ne le connaît pas en rêve. Dès le moment où il sait que cette personne est la personne qu'il faut, qu'il a choisi pour pouvoir faire ce qu'il attend. Alléluia. Cette semaine, je méditais d'ailleurs sur ça. C'était assez marrant puisque la question qu'il faut se poser quand je dis ça, c'est mais pourquoi Dieu a parlé à ces païens-là? Ou bien, qui étaient ces païens à qui Dieu a parlé? Tu vas découvrir une chose, tu vas découvrir un point commun à tous les gens, à tous les païens à qui Dieu a parlé dans la Bible en ce qui concerne la destinée du monde. Tu vas te rendre compte que c'était tous des puissants. Des rois, Pharaon, Nabucodonosor, etc. Et l'autre question que tu peux te poser, c'est pourquoi Dieu parle en rêve à des païens qui, en apparence, sont des hommes puissants? Parce que tout simplement, quand Dieu parle, dis-moi quand Dieu parle, quand Dieu parle, il veut s'assurer que ce qu'il a dit va être exécuté. La morale ici, c'est que Dieu, quand il va parler à un païen, le plus souvent, il va s'assurer que cette personne a les moyens de faire ce qu'il veut. En l'occurrence, les gens étaient des riches. Alléluia. Donc, Dieu va venir dans le rêve pour te prévenir de mauvais agissements que tu es en train de faire. Souvent, par exemple, tu fais quelque chose. Par exemple, une femme qui est très amoureuse d'un homme. Tu es très amoureuse de cet homme. Tout le monde dit ce gars c'est un gigolo. Toi tu dis c'est l'homme de ma vie. Ce gars c'est un gigolo. Il couche à gauche, à droite. Non, jamais il ne peut faire ça. Il m'aime trop. Etc. Non. Et tu t'apprêtes à l'épouser. Dieu lui-même va venir en rêve et te dire laisse l'homme là. Maintenant, si tu n'écoutes pas, car si on te prévient, si Dieu lui-même te prévient et tu persistes quand même, là tu vas au-devant de grands problèmes. C'est ce qui est arrivé à Abraham et à Sarah. Lorsque Sarah lui dit Sarah dit à Abraham, elle voit, comment il s'appelle, Ismaël se moquer de Isaac, et puis elle dit à son mari, chasse l'enfant là et sa mère. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham se met en colère parce qu'il était trop naze de Agar. Ça faisait 13 ans qu'il désirait cette femme. Il avait même eu un enfant avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand il s'est mis en colère, tu sais quand un homme se met en colère, hein? Quand un homme se met en colère, les femmes, quand votre homme se met en colère, vous voyez qu'il est borné, il est buté, ça ne sert à rien de forcer. Ne forcez pas. C'est Dieu qui va aller lui parler sur sa couche là-bas. C'est Dieu lui-même, la nuit même, qui vient en rêve à Abraham et qui dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Car Ismaël n'héritera pas de la promesse. C'est Isaac. Il se réveille, il dit, femme, tu avais raison, ça. Il se lèvera le matin et te dira, tu avais raison, ça. Parfois, il dit, non, mais tu es trop têtu, j'en ai marre. Attends, j'ai toujours comme ça. Non, laisse. Va dans la prière là-bas et puis tu le critiques devant Dieu là-bas. Tu dis, Dieu, il ne comprend pas. Parle-lui. Oh, mais Dieu est réel. Dis-moi, Dieu est réel. Dieu est avec vous dans la maison. Dieu est avec vous dans la maison. Tu penses que Dieu ne peut pas vous parler? Dieu peut parler à ton mari. Dieu peut te parler à toi. Si tu traverses une situation avec ton homme ou avec ta femme, parce que ça peut être aussi l'inverse, et il ne comprend pas, tu pries. Mais prie de manière bien précise. Dis, Dieu, parle-lui et montre-lui qu'il a tort. Et Dieu va lui parler. Alléluia. Et puis tu sais, les hommes, tu les connais, ils aiment jouer les durs, même quand tu as raison. Il ne dit rien, il ne te demande pas pardon, rien du tout, mais tu vois son qui fait ce que tu lui as demandé. Et puis tu l'utilises en ah, donc tu as compris, Dieu t'a parlé. Ah, laisse-moi, c'est quoi? Alléluia, avançons. Tu es sur le point de faire de mauvais agissements et Dieu te parle aussi en rêve. 4. Dieu te parle aussi en rêve pour te préserver de l'orgueil, dit Job. Car souvent, on est trop orgueilleux. Et Dieu utilise le rêve pour nous reprendre. Et enfin 5, pour te délivrer des mains du diable et du couloir de la mort. Parce que dans les rêves, l'ennemi aussi peut venir t'oppresser. Et Dieu aussi peut intervenir. Alléluia. Dis avec moi les rêves. Donc le rêve est super important. Comment ça se fait que le rêve occupe une place aussi importante dans notre relation avec le Seigneur, mais pourtant on ne lui accorde pas d'attention. On ne fait pas attention. Normalement, tous les matins, on devrait se réveiller et se demander, qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Ou qu'est-ce que j'ai vu? Mais quelle est la réaction la plus naturelle du commun des mortels? C'est de se lever et puis on se met à faire tout un tas de choses. Mais en fait, l'ennemi travaille beaucoup derrière. Parce que l'ennemi connaît la portée stratégique du rêve. Et quand l'ennemi sait que Dieu t'a parlé dans un rêve, il va tout faire pour t'en détourner. Alléluia. Le rêve, c'est comme une plateforme. Dieu utilise le rêve pour se révéler à nous et pour nous révéler notre appel. Par exemple, dans l'église, il y a un sujet de frustration chez la plupart des chrétiens, c'est l'appel. Dis avec moi l'appel. On se demande à quoi on est appelé dans la vie. Nous sommes en Christ, à quoi Dieu me destine. Eh bien, souvent, Dieu va te révéler ta destinée en rêve. Je t'assure, vous êtes tous là ici et je suis convaincu que tous, sans exception, Dieu vous a montré ce à quoi vous étiez destiné en rêve déjà. Vous ne pouvez pas atteindre cet âge-là dans la vie sans que Dieu vous ait déjà dit ce pourquoi il vous a créé. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est un mauvais papa. Vous laissez dépasser pour la plupart, la majorité, et vous ne savez même pas ce que vous avez, ce à quoi vous êtes appelé. Ce n'est pas possible. Dieu vous a déjà montré ce à quoi vous êtes appelé. En général, ça commence même petit. Alléluia. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve sur ma destinée. Et dans mon rêve, et c'est pour cela que je suis serein, parce que je sais où on va. Dans mon rêve, je me rappelle même à l'époque, j'étais allé même parler de ça à mon pasteur. Le rêve était trop réel. Dans le rêve, il y avait du monde autour de moi. Le monde autour de moi était en train de prier. Moi, j'étais au milieu avec le micro. Et j'étais en train de dire tout un tas de choses. Sauf que dans le rêve, moi, je ne m'entendais pas. J'entendais les gens prier, mais moi, je ne m'entendais pas. Vous suivez ou pas? Je voyais plein de gens qui étaient en train d'adorer, de louer, de prier, etc. Et moi, j'étais... Mais il y avait vraiment du monde. J'avais l'impression d'être dans un stade. Comme par hasard, l'église à côté d'un stade. Oh, bon. Ça va la parenthèse. Et puis, le rêve était clair. Pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que là, tu tentes. Là, c'était le ministère. Alléluia. Donc, le rêve est comme une plateforme. Notre sommeil n'est pas juste un temps de repos, mais c'est un moyen de communication pour le Seigneur. Alléluia. Un moment d'opportunité pour entendre Dieu et recevoir ses révélations. Quand Dieu va te donner des révélations, souvent c'est par le rêve. Quand Dieu va te parler par rapport à ton mariage, souvent c'est par le rêve. Alléluia. Quand Dieu va te parler par rapport à une situation critique, souvent, regarde, souvent quand nous avons des problèmes, le plus souvent, notre réaction, c'est d'aller, on court voir les gens, on essaie d'aller chercher une solution chez quelqu'un, on est tellement désespéré, on court chez la première personne venue en lui disant, s'il te plaît, aide-moi, etc., etc. Mais Dieu, tu le mets où? Dieu, il a la solution à ton problème. Je t'assure, si tu as un problème que Dieu ne peut pas lui-même résoudre, alors tu n'as pas de problème. Ce n'est pas un problème, c'est juste une situation qui va passer. Mais si tu as un problème, notre Père qui est aimant, il va te répondre. Car je ne connais pas un père, lorsque son enfant est en train de pleurer, l'enfant s'est fait mal, et puis le papa est là, il regarde, et puis il fait bon, il n'y a rien, et puis il s'en va. Ça, ce n'est pas un père, c'est un sorcier. Alléluia. Donc quand on a un problème, Dieu nous répond toujours. Tout comme dans une conversation peut avoir plusieurs sujets, de même Dieu peut nous donner dans une nuit plusieurs rêves. Souvent, on a plusieurs rêves dans la même nuit. Mais comment ça se fait qu'on ne se souvient quasiment pas de ces rêves? Si on se souvient d'un rêve, souvent c'est le plus récent, le dernier de la liste qu'on a fait. Pourquoi on peut avoir plusieurs rêves dans une même nuit? Eh bien parce que quand tu es en train de parler avec quelqu'un, vous abordez différents sujets, vous dites beaucoup de choses. Tu dors en moyenne combien de temps par nuit? 6 heures à 8 heures, non? T'imagines 8 heures de conversation avec Dieu? Donc il te montre beaucoup de choses. Hein? 8 heures, c'est quasiment l'équivalent de la journée. Tu travailles 8 heures par jour. Tu dors au moins 8 heures par jour. Tu dors, tu travailles 40 heures par semaine. Tu dors 40 heures par semaine. 4 fois 4, 16. Ça veut dire que tu dors 160 heures dans le mois. C'est beaucoup, hein? 160 heures, tu vois beaucoup de choses, hein? Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont broke, pauvres, dépressifs, coincé alors qu'il dort 160 heures par mois et voit des choses? On a un problème. Dire qu'on a un problème. On a un problème. Quelqu'un qui est en Christ, qui est en communion avec le Saint-Esprit et qui voit beaucoup de choses la nuit quand il dort, il ne peut pas être perdu. Parce qu'il a trop d'informations sur sa destinée. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que on puisse se réveiller le matin et se souvenir de tout ce qu'il nous a dit. Car si tu te lèves et que, regarde, dis avec moi Moïse. Moïse a eu la révélation du tabernacle comment? En rêve. Moïse dormait et Dieu lui a montré exactement de manière détaillée le tabernacle. Et Dieu lui dit dans Exode, assure-toi de construire le tabernacle exactement comme on te l'a montré. Au détail près. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu l'avait pris et l'avait emmené au ciel et lui avait montré le tabernacle. Mais Moïse, c'est pas un technicien, c'était pas un artisan, c'était un prince, ce gars-là. Il avait chillé toute son enfance dans la cour du roi. Il connaissait rien. Maintenant, la question que je te pose, c'est, la Bible nous dit que celui qui a construit le tabernacle, c'est Betsalil. C'était lui l'expert. Mais Betsalil, c'est pas lui qui a fait le rêve. Il faut que Moïse lui dise ce qu'il a vu et lui transmette. C'est un peu toi comme quand tu vas chez le menuisier. Alors, il y a un truc que j'ai envie de faire à la maison, c'est comme ça le menuisier, là, il te regarde. Ah papa, faut me dessiner ça, hein, faut. Non, comme ça. Alors, oui, tu lui donnes un à peu près. Et puis lui, il produit la chose. Et tu l'as dit, non, c'est pas exactement ça. Non, là on parle d'un tabernacle. Il fallait que Moïse lui donne les mesures, tout. Donc Moïse a dû dormir très longtemps pour que Dieu puisse lui donner toute cette information. Alléluia. Et moi je suis convaincu que ce n'était pas le fruit d'un seul rêve. Ça a dû être plusieurs rêves qu'il a dû faire pour avoir le temps de comprendre ce que Dieu était en train de lui montrer. Alléluia. Donc, si nous ne sommes pas matures, si nous n'avons pas d'expérience avec le Seigneur, Dieu peut nous montrer les choses, mais on peut ne pas saisir ce qu'il nous montre, parce que nous ne sommes pas suffisamment matures dans notre relation avec le Seigneur. C'est pour cela que, bien-aimés, dans l'Église aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on souffre parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous dit ou Dieu nous montre. On se plaint, on accuse même Satan. Satan, je vous assure, dis avec moi Satan. Lui aussi, il pleure hein, parfois. Même s'il ne peut pas retourner au ciel. Parfois, lui aussi, est-ce que tu sais que Satan prie aussi? Tu sais que Satan prie aussi? Oh, là tu blagues. Les gens au ciel, ils prient. Ils savent ce que c'est que prier. Prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler. Parler à Dieu. Ou parler à soi-même. Mais est-ce que tu sais que le diable, il prie aussi? Parce que le diable, il connaît son châtiment. Et il sait que chaque accusation d'un saint le rapproche de plus en plus vers la géhenne. Mais parfois, il y a des accusations qui ne sont pas légitimes. Parce que parfois, il n'a rien fait. Oh, c'est le diable. Il dit, mais est-ce que c'est moi? C'est le diable. Est-ce que c'est moi? C'est comme s'il y avait l'ange Michael devant lui. Et à chaque accusation, Michael fait un pas. Lui, il est obligé de reculer vers le... Donc, quand nous on prie, je décrète que tout esprit mandaté contre ma vie. Alors qu'en fait, c'est pas lui. C'est ton manque de sagesse, ton manque de... Je sais pas. Qu'il soit paralysé, qu'il meure. Dis, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est ta décision que tu as prise là, de laisser tomber là. Tes parents ont voulu t'envoyer à l'école, etc. Et puis toi, te voilà borné, tu dis j'abandonne l'école. Maintenant, tu es devenu manœuvre, puis tu dis le diable veut me tuer. Mais qui t'a dit de laisser l'école? Le diable aussi, quand on sera devant le tribunal divin, il sera là. Non, Dieu, moi, je n'ai jamais dit de laisser l'école. Moi, c'est vrai, j'avais un plan pour le détruire. Mais dans mon plan, il n'y avait pas laissé l'école. Parce que dans ton plan, tu voulais faire de lui un inventeur, le plus grand inventeur du monde. Moi, j'avais prévu qu'il ne devienne jamais inventeur, ce gars-là. Mais je n'avais pas prévu qu'il ne finisse pas ses études. C'est quand même bien de faire l'école, ça je le sais au moins. On aime accuser le diable de tout un tas de choses. Alors qu'en fait, souvent, Dieu nous a déjà parlé. Dieu nous a déjà parlé. Sur ce que vous voulez faire pour votre vie, Dieu vous a déjà parlé. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a déjà montré clairement ce qu'on devait faire pour notre vie, mais c'est nous qui avons tellement peur qu'on ne prend pas la décision de se lancer. Par exemple, Dieu te montre un projet clair dans ton esprit, c'est clair. Dieu te dit, si tu te lances dans ce projet, tu vas réussir dans les affaires, c'est clair. Mais pourquoi tu hésites? Tu as peur, tu es là, tu regardes à ton boulot, etc. Dieu dit, c'est bon, vas-y. Quand Dieu parle, on y prend point garde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne saisit pas. Alléluia. Et parce que le rêve est important pour Dieu, Satan le sait aussi. Il connaît ce mystère. Il connaît ce secret. Il comprend très bien ce secret. Alléluia. Le diable comprend le mystère du rêve. Et savoir interpréter le rêve que Dieu nous donne est une grande crainte chez Satan et ses agents. Quelqu'un qui sait interpréter les rêves, quelqu'un qui sait comment traduire un rêve en réalité, quelqu'un qui comprend l'interprétation des rêves, c'est quelqu'un de très dangereux pour l'ennemi. C'est quelqu'un de très dangereux. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui Dieu peut parler de manière très ouverte sur les réalités spirituelles. Les généraux de Dieu dans la Bible, comme Daniel, Joseph, c'était des gens à qui Dieu parlait en rêve. Alléluia. Les esprits impurs te harcèleront dans les rêves pour bloquer le flux divin et t'empêcher de le capter. Parce que tout simplement, Dieu vient dans le rêve. Et quand il vient dans le rêve, il vient avec un message, un avertissement ou une révélation ou un conseil, etc. Mais toi dans le rêve, tu es troublé, tu es perturbé. Soit c'est un démon qui est en train de te poursuivre, soit c'est un mari de nuit qui est en train de t'étrangler dans le... Tout un tas de choses. L'ennemi, il sait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive à t'oppresser dans le rêve, tu ne peux pas capter la voix de Dieu. Amen. Donc les agressions sexuelles dans les rêves, les moments de terreur, les choses que l'on voit qui nous font peur, tout ça n'a que pour objectif de t'empêcher d'entendre la voix de Dieu pour ta vie. Et bien entendu, de voler la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu me suis fait comme ça. Donc, Satan, il connaît ça. Et Satan, il va t'oppresser par le rêve. Satan sait que Dieu, après que tu aies prié, c'est la nuit dans le rêve qu'il te répondra. Alléluia. Ah. Maintenant, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais Dieu nous parle par les rêves, ok. Satan le sait aussi, ok. Quand on rêve, c'est quoi le moment le plus crucial? Le moment que l'on ne doit surtout pas rater. Le moment où on doit être prêt à capter le flux. Le moment le plus stratégique de la nuit, c'est lequel? Le moment le plus important entre le moment où on se couche et le moment où on se lève. Psaume 90, verset 5 dit, tu les emportes, en parlant des hommes, semblables à un rêve, viens avec moi un rêve, qui le matin, viens avec moi le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Je demande à Saint-Esprit, c'est quoi le moment le plus stratégique? Il me dit, c'est le matin. Quand tu te réveilles. Car tu dors 6 heures, voire 8 heures. Tu vois tout un tas de choses. Mais le moment le plus important, c'est quand tu te réveilles. Il se passe quoi quand tu te réveilles? Parce que souvent quand on se réveille, soit on est terrorisé parce qu'on a vu un monstre dans notre rêve, soit on a peur parce qu'on a vu quelque chose et on est convaincu que c'est ce qui va arriver, ou bien c'est arrivé et on se rend compte de ce qu'on a fait, on a peur en tout cas, soit on est troublé par ce qu'on a vu, donc on est confus, soit on se souvient de rien, on se réveille. Je sais pas. C'est juste blanc. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu es resté couché 8 heures, voire 12 heures pour les paresseux. Et puis, tu te réveilles et tu te souviens de rien. Salomon dit dans le livre de Proverbes, fais gaffe au vin quand il est rouge. Pourquoi? Parce que quand il commence à faire des bulles là, il est prêt à piquer comme de l'aspic et à mordre comme un serpent. Tu vas t'endormir et puis on va te frapper. Et puis tu vas te réveiller et puis tu vas dire, oh, où suis-je? Oh, laisse-moi me rendormir, j'en veux encore. Satan dit ça, c'est un fou ça. Non, Salomon, excusez-moi, j'ai dit ça. Salomon dit ça, c'est un fou. Comment quelqu'un peut dormir et puis il dit, je veux retourner dormir, mais il ne sait même pas ce qui se passe. Parce que dès le moment où tu franchis la ligne et que tu rentres dans le monde de l'esprit, tu t'engages dans quelque chose. Tu rentres dans une autre réalité où ton esprit va être exposé à un certain nombre de choses. Donc tu dois savoir ce qui se passe. Mais tu sors de cette réalité et tu ne te souviens de rien. Amen. Donc David nous dit ici que semblable à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Donc David compare le fait de ne pas se souvenir. Ah, suis-moi bien. David compare le fait de ne pas se souvenir de ce qu'on a rêvé à la mort. Parce que quand tu lis le verset précédent, le verset 4, il dit les hommes, ils meurent tous. Tu les envoies tous au séjour des morts. Tu les emportes semblable à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Donc David est en train de nous dire que le fait de se réveiller et d'avoir communié avec Dieu la nuit, il t'a communiqué des choses stratégiques pour ta vie. Et tu te réveilles le matin, tu te souviens de rien. Ou bien tu fais rien suite à ce que tu as entendu et vu. David dit, tu es mort. C'est pas ce que Paul dit dans les Épîtres quand il dit, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que quand tu dors la nuit, tu es comme mort. Parce que dès le moment où tu as franchi le monde de l'esprit et que tu es là-bas, il se peut que tu ne reviennes pas. Il y en a qui sont morts de leur sommeil. Parce que, comme dit Job 33, Dieu intervient aussi pour te délivrer des griffes de l'ennemi. Donc tu peux mourir là-bas. Combien de gens ne se sont jamais réveillés de leur sommeil et sont morts? Parce qu'ils sont rentrés dans un monde où tout simplement qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas, sans la protection divine, et puis ils sont morts là-bas. On les a attrapés là-bas et on les a finis là-bas. Et quand on te finit là-bas, c'est comme Matrix. Si on t'a débranché, tu ne peux plus revenir. Non, mais c'est ça le film Matrix. Oh, je vous ai dit que c'est une chrétienne qui avait écrit le film. Quand on te branche là, tu es dans le monde de l'esprit. Et quand tu regardes le film Matrix, le monde de l'esprit, c'est pas leur monde à eux où il y a la guerre. Le monde de l'esprit, c'est le monde normal. Et ils nous disent que non, le monde dans lequel on vit là, il n'est pas réel. C'est un monde spirituel. Il dit quoi? Au début du film, il dit quoi? Comment ça se fait? Il dit, mais gars, dans le monde là, on peut faire beaucoup de choses. Quand il maîtrise la chose, en plein milieu du film, il y a une scène où l'ennemi vient avec des armes, puis on commence à lui tirer dessus. Et puis il commence à esquiver des balles. Il est dans l'esprit. Parce qu'il n'y a que dans l'esprit que tu fais les choses comme ça. Oh, tu n'as jamais fait des rêves où tu voles. Mais comment ça se fait qu'il y a des rêves où tu te vois voler? Tu te dis, mais pourtant j'ai pas regardé Superman avant de dormir. Mais tu voles. Vous n'avez jamais vu les gens qui ont dit qu'ils ont fait le voyage astral et puis ils volaient. Ils voyaient le monde et puis ils disaient c'était magnifique. Comme notre Français la dernière fois qui s'est perdu. Dans le monde d'esprit, tout est possible. Et comment tout est possible? Tout. Mais oh, c'est pour ça que Jésus-Christ dit tout est possible à celui qui croit. Et en fait, le monde de l'esprit au ciel, on fait tout ce qu'on veut. Jésus-Christ, quand il revient de la résurrection, la Bible dit, il passe même entre les murs, vous. Mais est-ce qu'il faisait ça avant? Non. Vous, que la paix soit avec vous. Les gens disent, oh, c'est un fantôme. Il dit, mais est-ce qu'un fantôme peut manger? Il mange le poisson. Il dit, non, je suis dans votre monde. Mais dans votre monde là, parce que vous n'opérez pas dans l'esprit, il faut rentrer dans l'esprit. Et dans l'esprit, tout est possible. Rien n'est impossible. Tu veux ce boulot? Va dormir la nuit. Et vois-toi en train de travailler dans cette entreprise. Quand tu te réveilles le matin, attends-toi à travailler dans cette entreprise. Tu veux devenir milliardaire? Ton problème, c'est que tu ne rêves pas assez que tu es milliardaire. C'est que tu te vois pauvre et même quand tu dors dans les rêves, tu te vois encore pauvre. C'est compliqué. Dieu dit, mais je ne peux rien faire pour toi. Si tu te vois pauvre, même dans tes rêves, mais gars, dans le monde de l'esprit, c'est irréversible. Si tu te vois pauvre dans le monde de l'esprit, mais comment tu veux qu'on t'enrichisse? Parce que dans le monde de l'esprit, c'est grave. Le gars il se voit pauvre dans l'esprit quoi. J'ai dit oh mais rêve un peu que tu es quand même riche. Même dans le rêve tu te vois prendre le taxi. Non, dans le rêve, dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, il n'y a que les démons qui prennent le taxi. Les fils du royaume ils prennent pas le taxi. Moi je me vois rouler en Merco, en jet privé pour me déplacer. C'est ce que je vois dans mes rêves. C'est pour ça que ça me console un peu quand j'arrive dans votre. Alléluia. Donc, quand tu te réveilles le matin, David dit, sois pas comme un mort, hein, en laissant tout ce que tu as vu là-bas. Non, prends ce que tu as vu là-bas et emmène ça ici. C'est pour ça que tu pries en langue, tu t'endors avec ça. Dans le rêve, tu continues de voir ça. Et en fait, tu es en train d'activer. C'est pour ça que quand tu as saisi ça par la foi, le monde est obligé de s'ajuster avec ce que tu as vu dans l'esprit. C'est obligé. Tu es là, tu ne sais pas. Ah là là. Regarde, il y a une scène, je te laisserai aller le méditer. Parce que je vais méditer sur ça ce matin avant de venir. Ça me vient à l'esprit. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, je crois. La Bible nous montre que Jérémie était un prophète qui annonçait, selon les gens, le malheur. D'accord? Parce qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage. Et en esclavage, ils étaient sous le joug de leur ennemi et n'étaient pas du tout propriétaires de quoi que ce soit. Ils étaient esclaves. Ok? Et Jérémie, lui, le roi Sédécias, pendant cette période d'esclavage, le roi Sédécias l'avait fait enfermer. Parce que tout simplement, voici ce qu'était la prophétie de Jérémie quand il, cette partie du livre de Jérémie, Jérémie 30, 31 et 32, il dit, viendra un roi, un peuple, avec à sa tête un roi, Nabucadnézar. Et quand il viendra, ne le combattez pas. Soumettez-vous et devenez ses esclaves. Il dit, tu es fou, quoi. Genre, on va se défendre et puis on va se prendre. Il dit, non. Ce gars, c'est Dieu qui l'envoie. Et il disait, Nabucadnézar est serviteur de Dieu. Un païen qui vient nous emmener en esclavage, serviteur de Dieu. Mais tu es fou, faux prophète, en prison. Et en prison, il disait, ok, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe dans le chapitre 32, c'est que en prison, il a son neveu qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Malil ou Mali, j'arrive les noms hébreux là. Comment? Anamil. Anamil vient le voir. Anamil, il le décrit comme le fils de son oncle, donc son neveu. Anamil vient le voir dans un temps de crise comme celui-là où tout le peuple est en esclavage. Et Anamil lui dit, je viens te vendre mon terrain. Tu as trouvé le passage? Fais voir le passage. C'est à partir du verset... voilà. La parole de l'Éternel, verset 6, m'a été adressée en ces mots. Voici Anamil, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote. Dis avec moi Anatote. Parce que Anatote, c'est sa ville de naissance. C'est là où il est né, Jérémie. Il était chez lui, en prison, chez lui, comme toi au Gabon. D'accord? Anatote. Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Dis avec moi l'acquérir. Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anamil, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat, dis avec moi un contrat, que je cachetais. Je pris les témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté. Dans la vie, on parle d'immobilier, c'est ça, non? Hein? Celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était couvert, et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Macheja, en présence de Anamil, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch, ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël prend ses écrits. Ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, est mêlé dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Écoute bien cette parole, c'est une prophétie pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Pourquoi je lis ce passage? Parce que tout simplement, le gars il est en prison. Et en prison, alors que tout autour de lui semble désespéré, perdu, Dieu lui dit, c'est à ce moment-là. Et Dieu vient lui dire ça en rêve, en esprit. C'est justement dans ce temps de crise-là qu'il faut que tu achètes et que tu deviennes propriétaire. Tu vas rentrer à la maison, Dieu va venir te parler sur ton lit et il va te dire, regarde le Gabon là, c'est justement en ce temps-là que je te ferai prospérer. À Anatote, sur ton lieu de naissance, à Libreville. Moi, dans mon esprit, quand je rêve, je me vois propriétaire d'une grande maison. Donc, quand je me réveille, je ne suis pas comme un mort. Je sais très bien que je serai propriétaire de ma maison. Beaucoup vous êtes frustrés parce que tout simplement quand vous fermez vos yeux, vous voyez le contraire de ce que vous voulez. Pourtant Dieu dit, mais non, rêve. Je t'ai donné. Rien n'est impossible. Jésus-Christ quand il dormait, il était en paix. Parce que Jésus quand il dormait, il n'avait même pas besoin de forcer. La Bible nous dit dans le livre de Marc qu'il vint et se mit sur la montagne. Dès qu'il commença à enseigner, les foules commencèrent à s'assembler. Il n'a même pas besoin d'évangéliser. Les foules arrivent. Parce que lui, la nuit, il était en esprit. Avec Dieu. Notre problème, c'est que dans l'esprit, on n'est pas suffisamment actif. On ne voit rien. C'est pas normal que quelqu'un dorme 8 heures, se réveille et il n'a rien vu. Normalement, avant de te coucher, maintenant, va faire cette prière. Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour ma vie. Mais laisse-moi aussi te montrer ce que je veux pour ma vie, Seigneur. D'accord? Et puis on tombe en accord, toi et moi. Montre-moi. Dis-moi, montre-moi. Et Dieu aime les gens qui rêvent grand. Et le problème que Dieu a avec nous les chrétiens, et je reviens sur mon païen de tout à l'heure, c'est que le païen rêve grand. Le chrétien rêve pas grand. le chrétien rêve petit. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait de passer trop de temps entre les quatre murs de l'église et avec un pasteur devant et maintenant ton rêve c'est que le pasteur. Non, rêve un peu. Pourquoi, quand tu arrives dans son église au Gabon, il va là-bas, il dit mais moi je ne trouve pas des gars qui rêvent grand. C'est pas possible. Et malheureusement, quand il va chez les païens, là, il voit des gars qui veulent faire des trucs gigantesques, ils sont prêts à tout, même à voler, à tuer. J'ai dit, mais non, je ne peux pas travailler avec des gens comme ça. Mais malheureusement, c'est eux qui rêvent grand. J'ai un problème. Dès qu'on envoie un message, voilà ce que nous sommes en train de faire pour la conférence mandat. Voici. Venons, mobilisons-nous. Quelqu'un t'envoie un message derrière en te disant, mais pasteur, on n'est pas obligé. Hein? On peut faire avec ce que nous avons, non? J'ai dit, oh! Tueur de rêve, toi. Tueur de rêve. On voit grand, on voit une estrade, on voit des foules. Toi, tu viens me dire, faisons avec ce que nous avons. On a quoi? Alléluia. La personne là se dit, ah, j'ai envoyé le message là, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Rassure-toi, c'est pas méchant. Faut rêver grand, dis moi, faut rêver grand. Rêve grand, ose. Ose. Qu'est-ce que tu vois? Demande à quelqu'un près de toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Tu te vois où dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vois? À la tête d'un empire immobilier? Tu te vois à la tête d'un empire immobilier avec une propriétaire d'une maison dans chaque quartier de Libreville? C'est ce que tu vois? C'est ce que tu auras. Qu'est-ce que tu vois? Oh non, 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 pasteur, on n'a pas envie d'être trop prétentieux, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Dis avec moi, Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Dieu. Dis avec moi la richesse. Je touche ça. Ok, je touche ça un tout petit peu. Ok. La richesse. Dieu, il ne parle qu'avec des gens qui sont riches. Car les riches restent avec les riches. Jamais dans ce monde-là, tu verras un riche aller devenir pote avec un pauvre. Ça n'existe pas. De même, Dieu deal avec les gens qui sont riches. Sauf que dans le royaume de Dieu, la richesse est un état d'esprit. Ce n'est pas un compte bancaire. C'est un état d'esprit. C'est pour cela que chaque fois que Dieu voulait sauver le monde, il parlait toujours à une personne riche, en rêve. Même si c'est un païen. Parce que tu vas te rendre compte que toi, tu vas te bénir méchamment demain. Tu vas devenir très riche. Mais les gens avec qui tu vas te sentir le plus mal à l'aise, c'est à l'église. Parce que à l'église, il y a tellement de pauvres que dès que tu vas arriver à l'église, au lieu de te dire que Dieu te bénisse, c'est donne-moi l'argent. Allez, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je t'assure. Et malheureusement, et je crains que c'est ce qui risque d'arriver, c'est avec les païens que tu vas te sentir à l'aise. Parce qu'avec d'autres païens avec qui tu es riche, disent qu'ils sont riches aussi comme toi, mais vous avez des grandes discussions, vous avez des discussions d'investissement. Mais tiens, associons-nous. Dans ton esprit, le Seigneur te dit, mais tu ne peux pas t'associer avec le Seigneur. Lui, au moins, il a de l'argent. À l'église, il y a qui? Oh. Tout le monde donne les offrandes. Toi, quand tu donnes ton offrande, tout le monde arrête de danser. On voit comment tu vas déposer. À force de comme tu n'aimes plus ses regards, tu vas voir le pasteur à la fin du culte. Tu dis, pasteur, maintenant, moi, mes offrandes, ça va être par virement bancaire. Parce que franchement, j'en ai marre. Parce que dès que les gens me voient déposer, c'est toujours qu'on vient me voir à la fin du culte. Mon frère, j'ai des problèmes. Non. Tu dis rêve. Dis avec moi rêve. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parce que dans l'esprit, quand Dieu vient, il te parle. Il te dit ce qu'il a pour toi. Il a une grande destinée. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Oh! Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, etc., etc. Et on en connaît plein des passages. Mais comment ça se fait que une fois que tu as fermé ta Bible, quand tu retournes t'asseoir là, tu vois petit. Tu es là, tu te vois avec des problèmes. Tu te vois avec des dettes. Non. Tu dis, vois grand. Vois grand. C'est pour ça que quand tu entends des choses comme ça là, plus tard, tu n'as pas le droit d'être pauvre. On va se retrouver dans 10 ans. On va se retrouver dans 10 ans. Moi, je vois dans 10 ans cette église, quand nous disons retraite des hommes, on prend tous les hommes et puis on part dans, on loue tout l'hôtel, tout un hôtel. On prie, on travaille et l'après-midi, on est tous en caleçon au bord de la piscine. Parce qu'en Christ, on peut aussi être détendu au bord de la piscine. On a loué l'hôtel pour ne pas être dérangé par des païens. Tu saisis pas. Alléluia. Le moment crucial, c'est le réveil. Donc quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand tu te réveilles, il faut que tu comprennes ce que tu as vu. Il faut que tu l'interprètes. Il faut que tu saisisses ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a envoyé comme révélation. Parce que c'est là que Satan a un problème. Parce que Jésus-Christ nous dit dans la parabole du semeur que il vous a été donné à vous de comprendre les mystères cachés du royaume des cieux. Vous, maintenant, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Celui chez qui, on donne la semence et l'oiseau vient manger, c'est celui qui, avant qu'il ne comprenne, le diable vient et vole. D'accord? Beaucoup d'entre nous, on se réveille le matin, l'ennemi vient, il vole. Tu ne saisis pas. C'est pour ça que c'est blanc quand tu te réveilles le matin. Parce que ton esprit n'est pas suffisamment exercé à recevoir les réalités spirituelles et l'ennemi vient, il vole. Donc ton ennemi, il est prêt à t'assaillir dès ton réveil pour te détourner de tes rêves. Quand je dis t'assaillir là, il va envoyer tout un tas de choses pour que tu oublies. Tout un tas de choses pour que tu oublies. Donc chaque fois qu'il pourra, il te volera ton rêve et t'empêchera de le comprendre. Chaque fois qu'il pourra. Et il est très fort à ce jeu. Beaucoup d'entre nous, même de manière volontaire, on ne sait pas qu'on est manipulé par l'ennemi. Tu te réveilles le matin et le plus souvent, il va utiliser des moyens tels que Facebook, WhatsApp. Tu dors et puis... tu sors de ton rêve, tu étais en plein rêve et là, dans le rêve, tu es avec un gros businessman. Le businessman dans le rêve, tu vois que c'est un ange qui est en train de te faire signer un contrat prophétique qui va te propulser pour ta vie. Et l'ange dit, c'est bon, nous sommes d'accord, tu peux signer. Et toi, au moment où tu veux signer, et quand tu retournes dans le rêve, l'ange est parti. WhatsApp, Facebook, bien ton conjoint. Est-ce que tu sais que ton conjoint peut te perturber le matin? Vous vous réveillez le matin, toi tu es esprit, et puis ton conjoint te dit quelque chose. Tu fais, qu'est-ce que tu dis? Il te parle, il dit, arrête, je suis encore dans mon rêve là, tu me perturbes. Ou bien les champions du réveil automatique. Ça te réveille. Tout un tas de choses bêtes et simples, mais qui te sortent de manière brutale et qui t'empêchent de te souvenir de ce que tu étais en train de rêver. Normalement, le réveil est naturel. Moi, je ne me réveille pas avec un réveil automatique. Ça n'existe pas chez moi. Moi, je me réveille naturellement. Je me suis exercé à toujours me réveiller le plus tôt possible, sauf vraiment quand je suis fatigué. Par exemple, cette nuit, je me suis réveillé naturellement 4 heures. D'ailleurs, même, je crois que tu m'as demandé, quand je me suis levé un moment dans le rêve, il est quelle heure? Et puis je t'ai dit, il est 4 heures et quelques. Alléluia. Les téléphones. Normalement, quand on s'endort, on éteint son téléphone. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un de super important, qu'on doit absolument joindre à n'importe quelle heure pour laisser ton téléphone allumé. Mais normalement, quand on va se coucher, on ferme le téléphone. Tu éteins téléphone et tu t'endors et tu te réveilles. C'est pas dès que tu te réveilles, ton téléphone est déjà là bleu avec plein de messages. La première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone. Commence à lire les messages. Grossièreté. Ah, oh, le système est trop grossier. Tu es déjà une grossièreté qui est déjà semée dans ton esprit. Après, il y a une notification sur Facebook. Franck, mon frère Joël Francis, t'as tout. Oh. Tu viens de te réveiller. Te voilà en train d'écouter un message. Mais c'est la parole de Dieu, non, pasteur? Non! Moi, je viens de te donner quelque chose et toi, tu es en train d'écouter autre chose. Normalement, quand on se réveille le matin, on doit se réveiller dans le calme. Dites-moi le calme. Parce que la nuit est mouvementée. Donc, quand tu te réveilles, tu dois te réveiller avec douceur. Alléluia. Regarde. Quand l'avion décolle, il met les gaz. Il est porté par le vent. Le vent, c'est l'esprit. Il t'emmène et tu es en l'air et tu voyages. Alléluia. Maintenant, quand on est arrivé à destination, le pilote, il descend l'avion doucement. J'ai jamais vu un pilote qui descend, il pointe direct. Non, le pilote, quand il descend, on descend et il se laisse porter par l'air. On descend et ensuite on sort les roues et puis on atterrit. Tu vois, même quand il est près du sol, il est là, il essaie de toucher le sol, on atterrit, ensuite il touche doucement. Et quand vous êtes content, vous applaudissez tout sur l'avion. Ah, ça c'était un bon pilote, ça, etc. Le problème, c'est que WhatsApp, Facebook, ce n'est pas des bons pilotes. Ils te font atterrir de manière très brutale sur la terre. Alléluia, est-ce que tu me suis? Donc la distraction, faire gaffe. Parce que dans le rêve, tu as reçu des choses stratégiques pour ta vie. Donc, tu ne dois pas te réveiller avec WhatsApp, Facebook, réveil, etc. Tu dois éteindre tout ça. Mais pasteur, je risque de ne pas me réveiller et d'arriver en retard au boulot. Non, tu n'arriveras pas en retard au boulot. Voici une prière simple que tu peux faire. Tu vas dire, Saint-Esprit, réveille-moi à 4h du matin. Fais cette prière, tu vas voir. Il va te réveiller à 4h du matin. Le Saint-Esprit est fidèle. Si tu lui dis 4h, il va te réveiller à 4h. Maintenant, si tu te prélasses là sur le lit à ne pas te réveiller, tu as péché. Parce que tu l'as attristé. Parce que lui, il a fait l'effort de te réveiller pensant que tu viendrais prier, passer du temps avec lui. Et toi, comme tu es paresseux, tu l'as déçu. Alléluia. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, Satan, son boulot, c'est de voler. Tous les rêves que tu feras. Et Dieu te montrera beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, si tu veux connaître ta destinée, si tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle, regarde attentivement tes rêves. Parce que quand tu vas prier et demander à Dieu de te montrer ta destinée, je te garantis à 99% qu'il va te répondre par un rêve. Il va te montrer quelque chose. Même si tu ne saisis pas au début, sois très attentif à ce que Dieu te montrera. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand on lit la Bible, surtout les livres prophétiques, les livres prophétiques sont les livres les moins compris de la Bible. Et c'est d'ailleurs les livres qui sont les moins lus. Les livres prophétiques sont les livres les plus dans l'esprit. Si tu veux vraiment opérer dans le monde de l'esprit, lis les livres prophétiques. Parce que les livres prophétiques, ce sont beaucoup d'images. Mais en fait, chaque fois que tu vois dans la Bible un prophète te dire, la parole de l'Éternel me fut adressée en ceci, en ce sens. Il est en rêve, il est en esprit, il n'est pas là. Bon, Dieu parle, alors tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non! C'est la parole de l'Éternel me fait adresser comme ci, comme ça. C'est qu'il est en train de dormir et dans le rêve, il entend Dieu lui parler. Et il se réveille. Et il se souvient de la parole que Dieu lui a dite. Les évangiles, Luc, Jean, Marc, Matthieu, ont été écrits par des gens qui ont vu en esprit. Ce sont des... Matthieu, c'est qui? Matthieu, c'était l'un des disciples, l'un des apôtres de Jésus, n'est-ce pas? Il a vécu 3 ans avec Jésus. Tu penses que tu peux prendre 3 ans de ta vie et résumer ça de manière aussi précise dans un bouquin? Tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Humainement parlant, naturellement parlant, ce n'est pas possible. Le corps humain n'a pas cette capacité-là de se souvenir aussi loin et avec des détails. Donc il fallait qu'il, dans l'esprit, le Saint-Esprit lui montre de manière précise. Parce que 3 ans passés avec Jésus à écouter ses discours tous les jours, comment tu arrives à reproduire ses discours comme ça, mot pour mot? Tu ne peux pas. Donc le Saint-Esprit revient te rappeler ce que tu avais entendu. Et il se réveillait le matin et il écrivait. Parce que le rêve était frais, donc il écrivait. Alléluia. Quand tu vois Esaïe qui dit, Esaïe 6, au temps du roi Ozias, etc., je vis l'Éternel assis sur son trône avec des séraphins. L'un avait, ils avaient tous six ailes. Ils se disaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. Ils avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 autres pour voler. Tu penses qu'ils voyaient ça comme ça? Ils voyaient ça en rêve. Livre d'Apocalypse, chapitre 4. Je fus saisi en esprit et la voix me dit, monte ici et je te montrerai les choses à venir. Il est quoi là? Il est en rêve. Il est en esprit. Alléluia. La plus haute dimension de l'esprit, c'est quand tu es là, assis sur ta chaise, éveillé, et boum, Dieu t'emmène dans l'esprit. Là, c'est le haut niveau, mon ami. Mais ça, c'est pas pour les petits. Parce qu'on n'enseigne pas la haute voltige à un enfant. Il faut qu'il soit expérimenté dans la haute voltige. Parce que si Dieu t'emmène en haut là d'un coup, tu risques de te retrouver comme moi quand j'étais au Maroc, au-dessus d'une. Oui, un jour j'ai fait un voyage au Maroc et puis j'étais allé sur les montagnes de Marrakech et puis on avait mis une corde qui était reliée, qui reliait 2 hautes montagnes. En bas c'était juste le vide et puis j'avais accepté de traverser. Et arrivé en plein milieu du chemin, je me suis arrêté tellement j'ai été tétanisé. Je m'étais engagé dans une haute voltige que je ne maîtrisais pas. Et c'est là que j'ai vu que mon corps était vivant. Parce que mon corps m'a figé sur place tellement j'ai eu peur. Et j'ai commencé à crier tout le nom de mes parents. Alléluia. Donc, la plus grande crainte du diable, vous l'avez compris, c'est quand tu te réveilles. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles, l'ennemi sait que si tu arrives à interpréter le rêve, il est en danger. Pourquoi? Parce que dans le rêve, Dieu va l'exposer. Dieu expose tous les plans, les stratégies de l'ennemi. Dieu expose tous ses projets te concernant. Dieu te montre tout. Quelqu'un qui connaît très bien son adversaire est quelqu'un qui peut faire très mal. Alléluia. Quand tu vois clair ton adversaire, tu peux mieux le frapper. Tu le vois clair. Tu peux mieux esquiver les coups parce que tu le vois venir. Quand Dieu t'a enseigné sur les esprits impurs, sur le monde du combat spirituel, sur leur manière de fonctionner, je suis même convaincu que certains d'entre vous, vous aviez peur avant de certaines choses. Maintenant, vous n'avez plus peur parce que votre esprit est beaucoup plus éclairé. Donc même s'il se présente la nuit, tu dis, non gars, non, je connais la parole, papa. Les néphilim ont dit, bon, ça va, je pensais que tu étais encore ignorant. Non, je ne suis plus ignorant. Maintenant, viens que je te shoote un peu. Tu sais, dis avec moi esprit impur. Tu sais, si tu livres des combats avec de mauvais esprits tout le temps, normalement, chaque jour, ça doit être un nouveau. Parce que si c'est toujours le même qui revient, c'est que tu n'es pas encore suffisamment fort. Parce que quand tu as frappé quelqu'un, il ne revient plus. Quelqu'un que tu as bastonné, il ne revient plus. Donc chaque jour, ça doit être un nouveau qui vient toujours tenter. Parce qu'un nouveau, quand il arrive, il ne te connaît pas. Tu sais, il n'y a que Dieu qui est omniprésent partout. Donc quand tu frappes un esprit et qu'il s'en va, il s'en va. Il est quelque part peut-être à Ovendo ou il est peut-être entré dans la maison du voisin, tu sais pas. Ou il ne fait jamais ce type de prière. Au nom de Jésus, fâche le voisin. Dieu va te regarder et dire, oh, c'est quoi cette prière là? Ça c'est méchant ça. Hein? On l'envoie où Seigneur? Dans les lieux arides. Bon, c'est quoi les lieux arides encore? Va dans les lieux arides. Sauf que comme tu veux savoir absolument où il est, tu dis, va chez le voisin. Non.
dis pas, va chez le voisin. Au nom de Jésus, va chez mon patron. Au nom de Jésus, va chez ma belle-mère. Va chez mon oncle. Le jour où tu entends quelqu'un prier comme ça à l'église pour vous arrêter de prier, il faut arrêter ces histoires. Non. Donc dans le rêve, Satan sait qu'il est exposé. Et quand il est exposé, Dieu le met à nu. Et quand il est à nu, il sait qu'il est vulnérable. Et quand il est vulnérable, tu le frappes. Tu le frappes, tu envoies le feu. Tu les tues. Est-ce que toi, tu as la capacité de tuer un esprit? Non, parce qu'un esprit ne peut pas mourir. Donc quand nous disons « meurs, esprit impur », ce n'est pas la mort comme tu l'entends. Quand tu dis « esprit meurt », c'est tout ce que tu es en train de faire meurt. Je stoppe toute activité. C'est pour ça que je dis « mort sur toi ». Mais il ne peut pas mourir spirituellement. Tu me suis? Donc le diable, il sait ça. Je voudrais que tu déclares cette phrase avec moi. 1, 2, 3. Que tout esprit impur venu pour polluer mes rêves et voler ma destinée soit paralysé au nom de Jésus. Alléluia. Allez, on va atterrir. Je vais te donner quelques ennemis de ta destinée qui t'empêchent de comprendre les rêves que Dieu te donne. Le premier ennemi, bien entendu, c'est le diable, d'accord, qui est prêt à tout pour empêcher de capter la voix de Dieu. Le deuxième ennemi, c'est l'ignorance, directement l'ignorance. Parce que ce que tu ne connais pas sera une opportunité pour l'ennemi de te dominer. Quand tu es trop ignorant des réalités spirituelles, quand tu es trop ignorant de la vie, de ce qui se passe autour de toi, l'ennemi va te dominer. Tu dois comprendre ce qui se passe autour de toi. 3. Ton immaturité spirituelle. Quand on n'est pas suffisamment intelligent spirituellement, on ne peut pas saisir les vérités divines cachées derrière certains rêves. Parfois, il y en a, Dieu vous montre quelque chose, mais vous ne saisissez pas. Parce qu'il faut arriver à expliquer le rêve. Ah, pasteur, dans mon rêve, j'ai vu ça. Mais ça veut dire quoi? Mais le pasteur, ce n'est pas lui qui a eu le rêve. Donc, comme tu es immature spirituellement, le pasteur doit absolument t'expliquer le rêve. Non, le pasteur n'est pas obligé de t'expliquer le rêve. Parce que ce n'est pas son rêve, c'est ton rêve. C'est ta destinée et c'est à toi que Dieu a parlé. Donc, le pasteur, il ne peut pas tout connaître. Par contre, toi, Dieu, si Dieu t'a donné le rêve, Dieu t'a envoyé le rêve à un moment fixé. Parce que dans son agenda, c'était prévu comme ça. Le problème, c'est que toi, comme tu n'avais pas révisé tes leçons, eh bien, tu ne peux pas interpréter le rêve. C'est un peu comme l'élève qui va à l'école toute l'année. On lui a dit que le 15 avril, il y aura un examen. Le 15 avril, il n'arrête pas d'approcher, mais il ne révise pas. Lorsque le 15 avril arrive et qu'il est là, bêta devant sa feuille, il dit « Satan veut me tuer ». Non, tu n'as pas révisé. Tu n'as pas révisé. Donc de même, il y a des rêves. Dieu a un agenda. Si dans l'agenda de Dieu, ta mort est peut-être prévue à 100 ans. Et à 35 ans, il doit recevoir telle révélation pour entrer dans telle saison. Sauf que quand la révélation arrive, tu es en retard. Tu n'es pas mature spirituellement. Dieu dit à Abraham en rêve, dans 400 ans, le peuple qui sortira de toi, ce peuple-là, sera en esclavage, d'accord? Et je le délivrerai. Israël est sorti au bout de combien de temps? 430 ans. Il y a 30 ans de retard, 30 ans de souffrance, 30 ans de mort. Pourquoi? Parce que celui qui était censé les délivrer, Moïse, était en retard. Faut pas être en retard, dis-moi, faut pas être en retard. Quand tu es en retard dans les choses de l'esprit concernant ta destinée, tu peux tuer d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui doivent venir à Christ et qui doivent être sauvés au travers de ta vie. Comme tu dors, ces gens meurent. Pas genre, ils sont pas encore en Christ. Il y en a qui meurent avant le temps parce que tu n'es pas encore rentré dans ton appel. Si Dieu t'appelle à être évangéliste parce que tu dors et que tu prends ton temps, il y a des gens qui meurent. Et Satan fera tout pour te retarder. Alléluia. Donc, il ne faut pas être immature spirituellement. C'est pour ça que Paul nous dit dans les Épîtres que sa prière la plus importante, c'était que les gens deviennent matures. Il faut que tu deviennes mature. Par exemple, si Dieu t'appelle à avoir un grand héritage, si Dieu t'appelle à être quelqu'un de très prospère dans la vie, mais si tu dors spirituellement, il y a certaines révélations que tu ne pourras pas recevoir, ou bien quand elles vont arriver, tu ne pourras pas les saisir. Et tu resteras plus longtemps que prévu dans la pauvreté. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. 4. Le manque d'expérience dans l'interprétation des rêves. Souvent, on n'arrive pas à faire le transfert entre le canal spirituel et le canal humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre à s'exercer dans les rêves. Pasteur, comment je m'exerce? Comment je m'exerce à comprendre mes rêves? Comment je m'exerce à écrire mes rêves? Comment je m'exerce à saisir les rêves que Dieu me donne? Eh bien, en fait, j'ai compris que la nuit, on est censé se réveiller plusieurs fois. Chaque fois que tu as un rêve, normalement, tu devrais pouvoir te réveiller. Prends le temps de le noter quelque part et de retourner te coucher. Parce que tu ne peux pas tout simplement enregistrer tout parce que ta conscience, ton esprit ne peut pas tout stocker. C'est pour cela que quand tu te réveilles, tu as du mal à faire le transfert. Tu as du mal à tout retenir parce que tu as eu trop d'informations détaillées et tu ne peux pas tout retenir. Donc ce que les gens faisaient, comme Paul par exemple, Paul dit que il faisait veille sur veille la nuit. Veille sur veille. Ça veut dire quoi? Celui qui veille, qui fait des veilles sur veille. Dis-moi veille sur veille. Comme son mot l'indique, veille sur veille. Ça veut dire que veille sur veille. Le sur là, c'est le mot où il dort. Il veille, il dort. Il veille, il dort. Il veille, il dort. Il veille, il dort. Qui sont les gens qui sont très très bons à ça? Les gardiens. Il veille, il dort. Il veille, il dort. C'est pour ça que si Dieu a fait de toi un watch, c'est pour t'apprendre à exercer les rêves. Non, je te taquine. Non. Tu vas dire non, parce que tu vas dire quoi? Que je suis bien dans les boulots de watch là. Non. En fait, la nuit quand on dort, on devrait être capable de se réveiller à volonté. Manger à volonté. Consommer à volonté, se réveiller et dormir à volonté, sans modération. Tu es capable de t'endormir à 23h et dire à 1h du matin, je me réveille. Tu te réveilles et tu te souviens de ce que tu viens d'avoir dans l'esprit. Et tu prends ton stylo et tu notes. Même si ce n'est pas clair, tu notes. Ok, et tu remets le cahier. Et tu prends un petit bouquin et tu te rendors. 3h du matin, tu ouvres les yeux. Certains messages que j'ai donnés à l'église de dimanche, c'était des messages que j'avais reçus la nuit. Et je m'étais noté, je m'étais levé. Ah, donc c'est ça. Ouais. Parfois, certains messages que je donne le dimanche matin, jusqu'à 2h, 3h du matin, je ne les ai pas encore reçus. Je prie. J'ai cherché toute la semaine, j'ai lu plein de passages. Mais je ne sais toujours pas ce que je vais dire le dimanche. Juste là, je tourne en rond. Parfois, ma femme me fait ça va? Tu as déjà commencé à écrire ton message? Non, pas encore. Mais il est là. Lui, parfois, il me fait c'est bon le message? Je fais non, c'est pas bon, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et quand je vais dormir, la nuit, ding! Ah, c'est ça qu'il fallait dire. Et je me réveille et je vais dans mon bureau et je commence à écrire. Les autres te disent écris. Donc, moi, un jour, je vais commencer à venir vous parler comme ça. Autant de 2016, la parole de l'Éternel me fut adressée en ceci. Non, mais bon, je commence à venir vous parler comme ça. Le 13 novembre, à 3h du matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ceci. Le mystère des rêves. Non, parce qu'il y en a, quand vous lisez les livres que vous achetez dans les librairies, il y a écrit introduction, grand 1, chapitre 1, chapitre 2. Mais on peut aussi écrire la parole de l'Éternel me fut adressée en ceci, car c'est dans l'esprit qu'on a reçu ça. Donc je peux vous dire que je suis un prophète aussi, je peux écrire mes bouquins aussi. Car tous les bouquins qu'on lit dans la Bible, ce sont des bouquins qui ont été écrits par des gens. C'était de grands écrivains. Alléluia. Et vous imaginez un peu le nombre de bouquins qu'ils ont vendus, ces gars-là. Ils sont super milliardaires au ciel. Hein? Ah oui. Amen. Et enfin, le dernier point, c'est le manque de prière. Pourquoi? Parce que celui qui prie beaucoup est celui qui sait exercer son esprit à discerner les réalités spirituelles. Beaucoup d'entre nous, on ne saisit pas les choses de l'esprit parce qu'on n'a pas une vie de prière. Je vous assure, dis avec moi la prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui a affûté spirituellement. Oh! Quelqu'un qui prie beaucoup. Ah. Dès qu'il y a un truc qui arrive, ça là, c'est pas clair. Ça là, c'est pas clair. Faut prier. Faut prier là. Faut prier. Tu vois une situation qui persiste, qui persiste, qui persiste dans ta vie. Faut prier. Ne reste pas là en te posant des questions, mais dis, il se passe quoi autour de moi là? Prie. Si tu sais que si Dieu t'a dit que tu vas trouver le travail, Dieu t'a dit ça, tu es parti passer 1, 2, 3, 4 entretiens et tu vois que c'est toujours pas bon, Dieu dit va prier. Le problème c'est que la parole est déjà partie, mais là il y a l'ennemi qui bloque. Il faut que toi tu pries pour que la parole passe et que ça aille s'accomplir. Donc ça c'est ta responsabilité. Alléluia. Ah oui, il faut prier. La deuxième question que je nous pose, c'est comment faire des rêves que Dieu me donne une réalité? Comment est-ce que je fais maintenant? Et c'est ce que la Bible nous montre. Comment est-ce que je fais une fois que Dieu m'a donné ce rêve? Comment est-ce que je fais pour en faire une réalité? Pour ça, on va lire une petite histoire. Dans la Bible, livre de Genèse, chapitre 31. C'est une histoire très, très intéressante. Pour nous situer dans le contexte, c'est l'histoire de Jacob. Jacob est quelqu'un qui a beaucoup souffert. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il était quasiment en esclavage chez son oncle, qu'il exploitait. Alléluia! Suivez-moi, ne vous laissez pas perturber par ces allers-retours là qu'on devrait d'ailleurs arrêter. Merci beaucoup. Jacob était en esclavage et Jacob fait un deal avec Laban en lui disant, tu vois les brebis qui sont là. C'est un passage d'ailleurs que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé dans un rêve, l'histoire. Hein? Il fait un deal avec son oncle Laban. Et dit à Laban, ok, il y a les brebis qui sont nettes et il y a les brebis rayées et tachetées. Je vais prendre les brebis avec moi, d'accord? Je vais faire en sorte qu'elles s'accouplent, ok? Et toutes les brebis rayées et tachetées, en d'autres mots les brebis galeuses, je les prends. Dans le naturel, dis avec moi dans le naturel. Dans le naturel, les brebis normales ne s'accouplent pas avec les brebis tachetées et rayées. Donc lui, quand il dit à Laban, je vais prendre les brebis tachetées et rayées, Laban dit, oh, mais il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais sortir gagnant de ce pari. Parce que Laban sait que dans le naturel, naturellement, les brebis normales vont aller s'accoupler avec les brebis normales. Donc c'est elles qui vont enfanter les enfants. Et les brebis tachetées et rayées, ce sera, il n'y aura rien. Donc il est sûr de sortir de victoire, de vainqueur de ce pari. Et voici ce que Jacob raconte, parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que curieusement, les brebis tachetées et les brebis rayées se sont accouplées et ont produit plus de brebis que les brebis normales. Et c'est comme ça que Jacob est devenu extrêmement riche. Et il raconte maintenant, il appelle maintenant ses deux épouses. Genèse 31, verset 1. Jacob apprit que les fils de Laban disaient: Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. De plus, l'Éternel lui dit: retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où il était avec ses troupeaux, et il leur dit: je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. Par 10 fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre père affirmait: les bêtes rayées constitueront ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas à des petits rayés. Et quand il affirmait: les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits tachetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. En effet, dis avec moi, en effet, à l'époque où les bêtes s'accoupent, j'ai vu en songe ou encore en rêve que les béliers qui couvraient les brebis étaient tachetés, rayés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve: Jacob. Et j'ai répondu: j'écoute, dis avec moi, j'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, et tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. Qu'est-ce que Jacob avait vu en rêve? Jacob voit les brebis tachetées et marquetées, qui sont beaucoup plus nombreuses que les brebis normales. Et comme le deal avec Laban, c'était que ça allait être son salaire, il dit: mais en fait, je suis devenu riche là. Les brebis normales n'ont rien produit. Et l'ange, maintenant, la nuit, lui montre en rêve que les brebis qui couvraient, il dit bien les brebis qui couvraient les autres brebis, qui étaient marquetées, d'accord, les brebis étaient tachetées, les béliers qui couvraient les brebis étaient tachetés. Les béliers en question viennent d'où? Du ciel. D'ailleurs, en parenthèse, c'est dans ce passage-là que la Bible montre qu'au ciel, il y a des animaux. D'accord? Et ces béliers-là ont produit, parce que quand tu lis tout le chapitre, en 3 jours, les brebis ont mis bas. Tu as déjà vu un animal qui devient enceinte, en 3 jours, il donne naissance? Ça n'existe pas. Sur terre, ça n'existe pas. Mais la semence de ces brebis-là, du ciel, est tellement puissante. Quand ça arrive, 3 jours de grossesse, c'est bon, hein, mais pas. Et Dieu s'est assuré que, a dit à l'ange au ciel là: prends des béliers tachetés et marquetés pour mon fils Jacob. Et c'est, ils vont aller s'accoupler avec les brebis tachetées et rayées. Tout ça, il a vu ça en rêve. Alléluia. Comment faire? L'ange lui dit: maintenant, ce que tu as vu en rêve là, pour que ça devienne une réalité, lève-toi. Lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Parce que tout simplement, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Les rêves que Dieu te donne pour ta vie attendent une chose, c'est que tu te réveilles et que tu te lèves. Tout ce que Dieu t'a donné en rêve, comme Jacob, aussi puissant qu'il soit, il faut que tu te lèves et que tu retournes dans ton pays natal. Que tu retournes là où Dieu t'a planté. Que tu entres dans ton appel et que tu embrasses ta destinée. Si Dieu t'a donné en rêve la vision d'une affaire, lève-toi et vas-y. Car Dieu va s'assurer de la provision. Alléluia. Dis avec moi, lève-toi. Le diable n'a pas peur que tu fasses des rêves dans lesquels tu le domines même, ou que tu le tues, etc. Il a peur que tu décides de te réveiller et de le faire réellement. C'est pas à l'église qu'on règne, c'est dans le monde qu'on règne. Les chrétiens, on aime l'église. On prend plaisir à rester à l'église. Mais le combat, il n'est pas à l'église. Tu vois comment ils sont en train de combattre à l'église. Dieu dit: c'est bien tout ça, chasser les démons, etc. Maintenant, retournez dans les sphères de la société et opérez là-bas. régner là-bas. Dites-moi, lève-toi. Donc ta vie ne brille pas quand tu rêves, mais quand tu te réveilles pour faire rayonner ton potentiel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois te lever. J'en ai sélectionné quatre. La première, c'est pour ta guérison si tu es malade. Livre de Jean, chapitre 5, au verset 8, il est écrit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Je t'ai guéri. Est-ce que tu crois que je t'ai guéri? Tu crois par la foi que tu es guéri? Tu crois? Dis que moi je crois. Alors lève-toi. Tu es là depuis sur ton lit, malade de cette maladie. Tu lis la Bible tous les jours à côté. Tu crois que Dieu te guérit? Lève-toi. Par la foi. Et montre que tu es guéri. Lève-toi pour ta guérison. Livre de Actes, chapitre 14, verset 10. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Lève-toi, dis avec moi, lève-toi. Tu peux te lever pour ton business. Cette affaire que tu veux créer depuis si longtemps et qui dort dans les placards, pourtant tu es convaincu que Dieu te l'a montré. Livre de Esdras, chapitre 9, au verset 4, il est écrit, « Lève-toi. » Car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Il y a quelqu'un qui agit. Parce qu'il ne manque plus que ça. Lève-toi. Car ce business, cette affaire, elle est pour toi. Lève-toi. Lève-toi pour ton appel ou encore ton ministère. Si Dieu t'a appelé, ça fait longtemps que tu sais que Dieu t'a appelé. Tu attends quoi? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu passes ton temps à toujours raisonner? Lève-toi et entre dans ton appel. Livre des Actes, chapitre 10, au verset 13. Et une voix dit à Pierre, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Si vous regardez bien cette histoire dans la Bible, Pierre va refuser de tuer et de manger. C'était un juif et il ne pouvait pas tuer des animaux, il ne pouvait pas manger des animaux impurs selon sa tradition. Ce rêve que Pierre était en train de faire, Dieu était en train de lui montrer son appel en lui disant que Pierre, parmi mes 12, c'est toi que j'ai sélectionné parmi les 12 pour aller évangéliser les païens. Pierre a refusé dans le rêve. Et quand il a refusé dans le rêve, à 3 reprises, Dieu a dit au ciel 3, ça veut dire que c'est définitif. Je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Paul entre en scène. Alléluia. Paul n'était pas destiné à prêcher chez les païens. C'était Pierre. Et parce que Pierre a refusé, Dieu a dit, je vais me consoler en t'envoyant prêcher les juifs. Et c'est comme ça que le ministère de Pierre se fait auprès des juifs. Mais celui qui était destiné à prêcher les païens, c'était Pierre. C'était lui qui avait été choisi, pas Paul. Paul vient après. Ah mais pasteur, tu veux dire que Paul n'était pas appelé à ça? Là tu blagues avec Dieu. Dieu peut aller chercher. Le jour où tu dis non à Dieu, quand Dieu t'a montré quelque chose et il voit que tu tardes trop, il va prendre le projet, il va donner à quelqu'un d'autre. Et tu vas voir quelqu'un produire ce que tu étais appelé à faire. Et c'est ça qui va te faire mal. Tu vas dire, mais ça c'était mon rêve. Et je vois quelqu'un en train de faire ce que j'avais, je voulais faire. Mais Dieu dit, tu as trop attendu. Dis avec moi, lève-toi. Jonas, chapitre 3, verset 2. Voici quelqu'un qui est appelé. Dieu lui dit, va Jonas prêcher. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et quand vous lisez l'histoire de Jonas, il va refuser. Il va aller à Tarsis et il va passer par tout un tas de problèmes. Parce qu'il a refusé de se lever. Et lève-toi pour ta délivrance si tu es oppressé ou si l'ennemi t'emprisonne. Livre de Juges, chapitre 5, au verset 12, nous dit, réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, dis avec moi, lève-toi. Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Lève-toi. Lève-toi. En d'autres mots, lève-toi et brille. Ésaïe 60, verset 1. Brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Qu'est-ce que tu attends? C'est la volonté de Dieu. Mais pasteur, si, c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi si. Chaque fois que tu dis, mais si c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que tu doutes. C'est toujours la volonté de Dieu. Car Paul dit, en Jésus-Christ, c'est toujours le oui. Il n'y a pas de non. Toujours oui. Est-ce que Dieu veut que je sois prospère? Oui. Est-ce que Dieu veut que je sois propriétaire de ma maison? Oui. Est-ce que Dieu veut que je sois en bonne santé? Oui. Est-ce que Dieu, c'est la volonté de Dieu? C'est que oui. Il n'est que oui. Car son fils est mort pour toi. C'est pour tout te donner. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, réveille-toi, d'accord? Et puis écris tes rêves. Écris-les. Parce qu'il est écrit dans Daniel, chapitre 7, au verset 1. La première année du règne de Belsatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Il a écrit le rêve. Il a écrit ce qu'il avait vu la nuit. Et c'est comme ça que, en rêvant régulièrement, tous les rêves qu'il a écrits ont fait le livre de Daniel. Alléluia. Trois, j'ai envie de te dire, prie avec foi sur ce que tu auras vu dans ton rêve. Parce que après que Daniel ait écrit le rêve, il est écrit, il se met à prier en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Écris et prie ensuite. Si Dieu t'a montré quelque chose, prie. Mais la prière que Daniel fait, c'est il rend grâce parce que Dieu vient de lui montrer ce qui va arriver dans sa vie. Alléluia. Tu pries pas en disant Seigneur, je brise, je casse. Non, non, non. Dieu dit c'est bon, rends grâce. C'est déjà accompli. Et enfin, le quatrième point, ça c'est ce que moi j'aurais fait personnellement. Peut-être que tout le monde ne voudra pas le faire, mais moi c'est ce que j'aurais fait, c'est fais une offrande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur bien fort? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur maintenant? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour tous les merveilleux rêves qu'il nous donne et qu'il est sur le point encore de nous donner? Yeah, yeah. Je voudrais que tu commences à élever la voix avec moi. Que tu élèves la voix de manière sincère. Que tu élèves la voix et que tu dises, oh Dieu, merci pour tout ce que tu m'as montré jusqu'ici. Merci Père Céleste, parce que je reconnais aujourd'hui, au travers de ta parole, qu'en fait tu m'avais déjà parlé. Que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Je suis dans la joie, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je comprends, Seigneur, oh Dieu, que les rêves que tu m'as donnés étaient destinés, en fait, à m'éclairer, à me montrer la voie. Merci encore, parce que au travers des rêves, Seigneur, oh, tu me montres ma destinée, Seigneur. Oh, Rababahande Rebosta, Rekotayama, lève-toi et brille. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, oh. Est-ce qu'on peut prier dans cet endroit? Est-ce qu'on peut prier? Je vous assure que si Dieu nous donne, si Dieu nous a expliqué le mystère des rêves depuis 3 semaines, c'est parce que je vous assure que Dieu est sur le point de nous révéler des choses. Tu vas rentrer chez toi à la maison et Dieu va se révéler à toi sur ta couche, sur ton lit. Dieu te montre ta destinée. Dieu te montre ce à quoi tu es appelé. Dieu te montre. Oh, Katarabosnaya. Thank you. je prophétise, Père, que les femmes rêveront de grandes choses. Je prophétise que les hommes auront des grands rêves pour leur foyer. Les hommes auront des rêves pour leurs enfants. Les hommes auront des rêves pour la nation. Les hommes auront des rêves. Merci, Père, parce que tu lèves des femmes ferventes dans cette église qui vont rêver, Seigneur. Rêver pour la jeunesse. Rêver pour la, pour les femmes. Rêver pour les jeunes.
Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à la maison du bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.